Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débats et controverses sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Et oui, j'accueille les experts pour débattre des thèmes du jour. Nous reviendrons évidemment sur la loi pouvoir d'achat, son équilibre entre les mesures permanentes et puis les mesures temporaires. Voilà, est-ce qu'on distribue trop d'argent ? Est-ce qu'on le distribue à trop de monde ? Et puis, on reviendra aussi sur la sobriété énergétique. C'est le thème de l'été et nos experts seront très disert, j'ai l'impression, sur le sujet. Quels efforts devra-t-on fournir pour quelle trajectoire d'économie? Et puis, on verra, tiens, sur ce chiffre, l'Observatoire national de la rénovation énergétique qui évalue toujours à la hausse le nombre de passoires énergétiques parmi les résidences principales. Et puis, on se projettera quand même vers la rentrée. Est-ce que la rentrée financière sera tendue pour les entreprises entre le remboursement des PGE et les difficultés de trésorerie? On en discute avec nos trois invités du jour. Nos trois invités qui sont d'abord Nadine Levrato. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Université de Paris-Nanterre. Gaëlle Mac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Guillaume Poitrinal, bonjour.
Bonjour.
Guillaume, vous êtes chef d'entreprise, fondateur de WOO2, promoteur immobilier bas carbone.
WO2.
Ah, vous dites pas WOO2,
c'est non, WO2.
C'est O2
comme l'oxygène.
Oui, mais il y a pas wood comme bois.
Ouais, c'est la maison mère de Woodéum.
Ah bah voilà. Et on rappelle votre dernier livre, Guillaume, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action. C'est publié chez Stock.
Exact.
Nous en reparlerons. Commençons par la loi pouvoir d'achat avec ses mesures permanentes, ses réévaluations sur les minima sociaux, les retraites, les APL et puis toutes les mesures temporaires, les réductions sur le carburant, par exemple. Nadine Levrato, est-ce qu'on a le bon équilibre sur cette loi pouvoir d'achat ?
Je ne sais pas ce qu'est le bon équilibre, donc déjà...
L'équilibre qui vous paraîtrait idéal.
Alors, non, puisque déjà sur les revalorisations, le compte n'y est pas. Les montants, les taux de revalorisation sont inférieurs à l'inflation. Donc, en termes de pouvoir d'achat, il y a quand même des pertes. J'ai entendu que vous débattiez hier des 3,5% sur les lois répartis entre les propriétaires, ouais. les locataires.
Qui doit faire l'effort.
Voilà.
3,5%, c'est le plafonnement de l'augmentation
des loyers.
Des loyers.
On voit bien que sur ces mesures-là, le gouvernement a essayé de faire une côte plus ou moins bien ou mal taillée, selon la manière dont on voit les choses. Mais on voit aussi, et peut-être surtout, qu'il y a beaucoup d'efforts qui, finalement, seront demandés aux organismes sociaux, avec toutes les mesures de défiscalisation, des heures supplémentaires. On parle de la possibilité de pouvoir racheter les jours de compte épargne-temps. Et donc, toutes ces exonérations qui viennent s'ajouter aux exonérations massives de cotisations sociales dont bénéficient déjà les employeurs et qui vont venir encore creuser le déficit des comptes de la Sécurité sociale en particulier, sont à terme très, très dangereuses pour l'ensemble du système.
Guillaume Poitrinal.
Oui, on va pas être tout à fait d'accord. Une exonération de cotisations sociales, c'est pas nécessairement un bénéfice pour l'employeur. En fait, il faut comprendre que l'employeur, lui, ce qu'il voit, c'est son super brut. C'est-à-dire sa capacité, etc. Si vous prélevez sur ce super brut, pardon, une cotisation sociale, ça va faire du revenu net en moins pour le salarié. Donc il faut arrêter de penser que la cotisation sociale, c'est un impôt qui est prélevé dans la poche de l'entreprise. La cotisation sociale, c'est tout simplement un prélèvement sur la valeur travail qui est chez les gens. Donc très honnêtement, aujourd'hui, la question qui se pose sur ce plan de soutien au pouvoir d'achat, elle est toute simple. C'est qui paye ? Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Donc, on a un soutien au pouvoir d'achat et on n'a pas d'augmentation d'impôts. Donc, qui paye ? C'est assez simple, c'est le déficit. Et si c'est le déficit, c'est les générations d'après. Et c'est ce que je racontais dans mon livre, c'est-à-dire qu'on est devant, nous, une génération de boomers, on a décidé de dépenser plus que ce qu'on gagne. Et la différence, ça s'appelle la dette publique. Et cette dette publique, elle n'arrête pas de croître. Donc on est dans un pays absolument fantastique dans lequel nous avons le record des prélèvements obligatoires, 60%, donc 20% de plus que la moyenne de l'OCDE, 20% de plus de prélèvements obligatoires que les Allemands. Nous avons le record de prélèvements obligatoires, de la dépense publique, hein, la dépense publique à 60%, donc 20% de plus de dépenses publiques, qui est financée par un record de prélèvements obligatoires et qui est financée par un record de dette. Et la dette, c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement le boomer qui consomme sur le dos de ses enfants. Puisqu'en fait, nous allons laisser, nous, à nos enfants, une dette publique absolument considérable, délirante, qui aujourd'hui se trouve être pas trop chère parce que les taux d'intérêt sont encore pas chers. Mais évidemment, un jour, leur caisse va s'arrêter et un jour, il va falloir payer cette dette. Donc, c'est ça aujourd'hui le sujet. C'est ce plan de relance du pouvoir d'achat formidable qui paye ?
Vous avez raison, on ne va pas tout à fait être d'accord parce que ce discours, ce raisonnement que vous tenez, en fait, ça fait 30 ans qu'il est tenu, donc il ne s'applique pas spécifiquement à la situation présente. Les boomers qui ont créé la dette, mais quel boomer ? Alors là, moi, je
et vous
je
et moi, chère madame.
Non, c'est pas vous et moi.
Vous et moi.
Non, il faut regarder plus précisément. On sait bien que l'effet générationnel n'écrase pas les structures sociales et l'analyse par premièrement catégorie socioprofessionnelle, deuxièmement par type d'agent, les ménages et les entreprises. Donc il faut avoir des analyses beaucoup plus fines que ces analyses macro. On voit bien qu'en France, comme dans de nombreux pays européens et de l'OCDE, on a eu un croisement des contributions des ménages et des entreprises. Les entreprises paient de moins en moins, reçoivent de plus en plus.
Mais c'est pas vrai.
Mais bien sûr que si. Regardez.
Votre croisement, c'est sûr. C'est-à-dire
que lorsqu'on regarde les montants des contributions au budget de l'État, celui des entreprises est de plus en plus faible en proportion, hein, et celui des ménages de plus en plus élevé. Donc, les travaux de Clément Carbonnier qui ont été présentés. Non,
mais c'est vrai que la logique fiscale des 30 dernières années, ça a quand même été de moins taxer les facteurs de production les plus mobiles et de taxer davantage les facteurs de production.
Il y a un petit rééquilibrage sur les dernières années.
Non, il n'y a pas de rééquilibrage.
Mais la question, elle est toute simple. Moi, je vais vous poser la question. Elle est toute simple. On dépense 60% du PIB est en dépenses publiques. Est-ce que vous pensez qu'on est mieux soigné, mieux éduqué en France que dans les pays et mieux protégé que dans les pays qui sont à 50%
la moyenne de l'OCDE. Ce sont deux questions différentes.
Je vous pose la question.
Non, mais je vous réponds. Ce sont deux questions différentes. Combien on consacre et comment on dépense ? Je suis d'accord avec vous, la dépense est très mal gérée. Voilà. Donc si c'est
vous savez ce qu'on fait dans l'entreprise quand on a ça, quand on a une dépense mal gérée,
on diminue la dépense d'abord. Non. Oui, peut-être en entreprise, mais un pays n'est pas une entreprise. Vous le savez très bien, bien sûr.
Non, mais le rapport.
Quand on a un budget, mais vous savez, une entreprise, ça marche. Une entreprise, c'est pas un ovni. Ça marche aussi avec des budgets.
C'est bien, c'est une institution.
Ça marche aussi avec des coûts administratifs, vous voyez. Une entreprise, ça, c'est
non,
pas.
Non, mais il y a aucune institution, chose, quelle qu'elle soit, qui survit durablement en ayant un rapport coût-efficacité désastreux. Ça, c'est, on est là, que ce soit une entreprise ou une administration.
Si vous voulez rendre du vrai pouvoir d'achat aux Français, vous baissez la dépense publique et vous leur mettez dans la poche 3 400 € par Français.
Mais
3 400 € par an et par Français.
Dit, Mac,
c'est les 10% qui nous séparent du reste du monde normal, c'est-à-dire l'OCDE et l'Allemagne.
Cela dit, ça dépend. Les Américains dépensent beaucoup plus pour leur santé que les Français. En privé, je veux dire, certes, ce n'est pas de la dépense publique et donc ça va dans leur poche, mais au bout du compte, c'est 17% de leur PIB contre 11% en France.
Et je ne pense pas
qu'ils soient mieux soignés que nous. Donc, de temps en temps, je veux dire, dans le match entre, en fait, l'efficacité de la dépense publique et de la dépense privée, les choses ne sont pas forcément complètement manichéenne. Mais pour revenir à cette loi pouvoir d'achat, parce que là, je pense qu'on s'en est un peu éloigné, je trouve que ce qu'on voit aussi, surtout politiquement, c'est que c'est un premier test pour le gouvernement. Et donc, il y a des négociations avec la droite, avec la gauche, avec les uns, avec les autres. Et donc, on aboutit, je trouve, à un projet de loi un peu bancal et un peu démagogique, par certains côtés. Par exemple, cette histoire de fioul. Bon, ben voilà, on voulait donner une aide aux ménages pour pour passer l'hiver, pour ceux qui se chauffent au fioul, le gouvernement prévoyait 50 millions. Bon, ben là, les LR se sont plus ou moins associés avec la NUP, en gros, pour dire, ben non, ça va être 230 millions. Non
mais,
et bon, je veux dire, c'est quand même les LR qui disaient, on va cramer la caisse, attention, les comptes publics.
La conclusion qu'on peut tirer du nouvel équilibre à l'Assemblée, c'est qu'il est quand même extrêmement inflationniste.
Exactement.
C'est-à-dire que, et ça, c'est quand même pas très rassurant.
C'est pas très rassurant, c'est-à-dire que toutes les mesures qui vont consister à plus aider, à donner plus d'argent, et d'une manière plus indiscriminée d'ailleurs, passe. Et toutes les mesures qui consistent à dire, bon, ben là, on va peut-être restreindre, ou on va peut-être faire un impôt, ou on va peut-être... Alors là, ne passe pas. Donc, je crains que nous ayons un mandat qui va être assez dépensier, parce que tous les gens sont d'accord pour dépenser, tous les députés, tout, mais personne quand même, n'est d'accord pour restreindre.
Oui, ce qui est inquiétant, c'est que c'est le plus petit dénominateur commun, finalement.
Voilà, et je trouve que dans ces équilibres politiques, ça va certainement pas aider la France à avoir des comptes publics un peu plus rigoureux. Et je suis un petit peu surprise de voir que les chantres des comptes publics rigoureux que sont normalement les Républicains sont quand même les premiers à y aller du chéquier, quoi.
C'est quand même eux qui sont les plus schizophrènes aujourd'hui, on est d'accord
Un peu, quand même.
C'est pas vraiment nouveau. Quand on regarde sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la dépense publique a énormément augmenté.
Il y a une part financière, quand même.
Oui, mais sur les cycles longs, on voit que finalement, ce sont les gouvernements à orientation dite libérale, enfin RPR ou les Républicains, qui finalement ont tendance à avoir une politique de dépenses plus laxiste ou plus généreuse.
Le décrochement, il date de 2008 à peu près.
Il est antérieur.
Toutes les courbes 2007-2008, on voit que tout d'un coup, on se décroche des moyennes et c'est là où la dépense publique devient délirante.
Alors, moi je suis d'accord avec vous, le décrochement, il date de Mitterrand, en fait, il date du début des années 80. Et après, alors pour poursuivre, non mais si, allons-y dans le paradoxe, ce que vous dites, c'est qu'en gros, vous dites, la droite dépense plus que la gauche, et en même temps, la gauche a fait plus de réformes de libéralisation, d'ouverture de concurrence que la droite.
C'est son problème.
Oui,
c'est son problème d'ailleurs.
Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu quand même une sorte de politique à front renversé par rapport à, en tout cas, aux thèses défendues par ces deux camps, hein, ça c'est sûr.
Maintenant, si on fait un peu de prospective, le sujet c'est que tout ça dépend des marchés financiers. C'est-à-dire en fait du bon vouloir des épargnants prêter au gouvernement français pour financer cette dépense publique, ces plans de soutien, cette complexité administrative qui coûte extrêmement cher et qui ralentit tout le monde en plus dans le même temps. Rien n'est certain en matière de marché financier. Rien n'est certain.
C'est surtout qu'on a l'impression, enfin je sais pas si c'est la vôtre, mais on a à la fois l'impression qu'il y a énormément d'argent qui est prêt à financer même les dépenses publiques quand il s'agit de dépenses d'investissement, mais on voit que si c'est pour financer du train de vie et de la dépense de consommation, effectivement la patience des investisseurs elle risque d'être assez courte.
Oui, et ça va être le sujet, d'ailleurs c'est un lien avec votre deuxième sujet, c'est que de toute façon il va falloir énormément d'investissements pour passer à la société bas carbone. Parce que alors là pour le coup on change tout, il va falloir passer à l'électrique sur les voitures,
il va falloir 2% de PIB tous les ans plus
donc,
ou moins,
c'est donc compris, donc il y a énormément d'argent et là il va falloir faire un arbitrage, c'est-à-dire cet argent il ira au pouvoir d'achat ou il ira à l'investissement, il va pas aller, le même euro n'ira pas aux deux. Et ça va être ça aussi le sujet, c'est-à-dire, ça va être un sujet d'abord de qui nous finance et ensuite ça va être un sujet de où va l'argent. Et c'est tout le sujet, à mon avis, de la civilisation bas carbone, qui de toute façon s'annonce, qui de toute façon va arriver, à mon avis, plus vite qu'on ne le pense, et qui va nous contraindre.
À noter qu'on fait bien l'inverse hein, pour le moment, c'est-à-dire que dans la loi alors, pouvoir d'achat, justement, cette histoire de chauffage au fioul, cette histoire de prime de, enfin de remise de 30 centimes sur le carburant en septembre et octobre, qui nous coûte quand même, qui va nous coûter 4 milliards de plus. Hein, on a déjà dépensé presque 20 milliards sur les espèces de boucliers, non même plus 25, hein, je crois, sur l'année 2022, ça va faire de 25 milliards pour les boucliers tarifaires divers face aux énergies fossiles, hein, c'est-à-dire le gaz, le carburant. Donc, pour l'instant, dans l'urgence un peu, et je veux dire un peu tétanisé, et puis on a été quand même, je pense que les dirigeants étaient très tétanisés par les gilets jaunes, hein, donc ils sont tous un petit peu sur les questions de carburant, ils sont un petit peu tous au taquet, et ben pour l'instant, on va quand même, on prend des mesures qui sont un peu à l'inverse de ce qu'on devrait faire pour avancer
Qui sont des mesures qui seront jugées sévèrement par les générations suivantes. Ah oui. Là encore, parce que sponsoriser la consommation d'hydrocarbures après avoir signé tous les accords de réduction d'émissions de CO2, excusez-moi, mais il y a un vrai bug. On aurait mieux fait de donner de l'argent aux gens et après ils choisissent ou de s'équiper d'une pompe à chaleur
ou d'augmenter les bonus pour les voitures électriques ou
de se chauffer au bois déchiqueté plutôt qu'au fioul. Mais très honnêtement, là, on est en train de sponsoriser le fioul et l'essence. Il y a un problème.
Nadine Livrato, comment vous percevez cette parce que là vraiment c'était le grand discours. On avait dit oui, mais c'est pas vrai. La fin du mois, la fin du monde ne sont pas inconciliable, on doit pouvoir trouver une voie. La réalité, c'est que là, rien n'est fait justement pour enclencher cette transition, même dans nos comportements. Non seulement dans les mesures, mais même dans les messages. C'est-à-dire que c'est quand même du « dormez, braves gens, ne vous inquiétez pas, vous continuerez à avoir des hydrocarbures bon marché ».
Quand même, on est gravissime ce qui se passe, mais là on le voit parce qu'il y a ce contexte de hausse des prix de l'énergie, mais on sait bien que sous le précédent quinquennat, les émissions ont augmenté plus qu'elles ne l'auraient dû, que la France dépasse tous ses quotas pour lesquels elle s'était engagée dans le cadre des accords de Paris. Donc, il y a vraiment une absence de politique environnementale sérieuse dans ce pays depuis au moins 10 ans. On ne savait pas quelle forme allait prendre la crise énergétique, mais on savait que les prix de l'énergie allaient est augmenté. Alors peut-être pour des mauvaises raisons, hein, le fameux pic, etc. Mais on savait qu'il y aurait des tensions. Est-ce qu'il y a eu des investissements, je parle d'investissements, nécessaires pour résoudre le problème des passoires énergétiques, inciter au changement de mode de vie? On nous parle aujourd'hui de sobriété, mais enfin c'est, excusez-moi, pathétique, dans le sens où on nous dit la sobriété, c'est éteindre la lumière en sortant de la maison et couper la box Wi-Fi quand on part en vacances. Mais il y a des rapports très rigoureux. Il y a eu celui de RTE, il y a eu celui de l'ADEME, il y a celui de Negawatt qui explique ce qu'est la sobriété énergétique. C'est pas juste un slogan, c'est pas je ferme le robinet pendant que je me brosse les dents.
Alors c'est quoi?
C'est un changement des modes de vie, c'est apprendre à vivre dans des appartements moins chauffés, pour ceux qui ont des appartements qui sont chauffés à plus de 20. Donc c'est apprendre à vivre à 19. C'est apprendre à ne plus se déplacer en voiture. Et c'est pas remplacer la voiture à moteur thermique par une voiture à moteur électrique. On sait bien que sur l'ensemble du cycle de vie de ce véhicule, il y a quand même des prélèvements de matière, un coût énergétique, un coût environnemental. Donc c'est développer des transports en commun, ce qui n'est pas fait, au contraire. Là, on a vu.
Mais ça,
le
c'est un truc de citadin, ça, les transports en commun.
Non, c'est pas un truc de citadin.
Regardez au fin fond des campagnes et des petites villes, aller parler aux gens de transports en commun.
Mais c'est ça, c'est un justement. Truc de Parisien, non, c'est un problème d'infrastructure. Le réseau ferré est de moins en moins chevelu. Il était couvert d'infrastructures.
Mais parce qu'il y avait des centaines de millions de gens. Des centaines de millions de gens. Il y avait des millions de gens qui habitaient justement dans les provinces.
Mais les chemins de fer des années 30 et des années 20, d'ailleurs, ils ont fonctionné. Enfin,
mais parce qu'il y avait des habitants
dans ces villes. Pour la Fondation du patrimoine, je récupère les ponts magnifiques Eiffel, au milieu du Massif central.
Mais comment la France était peuplée à l'époque?
Non, mais aujourd'hui, par exemple,
vous avez d'offres, vous avez d'usagers. Il y a eu une telle détérioration du service rendu. Quand vous avez deux trains par jour, évidemment, les gens ne le prennent pas. Mais quand vous avez des réseaux de transport...
Alors ça, c'est ce qu'on a vu en Allemagne avec l'ouverture à la concurrence. Le fait d'augmenter la fréquentation.
Mais bien sûr. Et d'autre part, vous avez un problème de répartition des coûts. Là, aujourd'hui, les routes sont payées par le budget de l'État, par nos impôts. Le réseau ferré n'est pas du tout payé par les Français en général, alors que même ceux qui ne prennent pas le train en bénéficient. Non, c'est dans le prix de votre billet. C'est comme quand vous payez une grande partie.
Oui, il y a une partie. On est obligé de s'arrêter. On va reprendre. On va reprendre sur cette dynamique autour de la sobriété énergétique. On se retrouve dans quelques instants avec nos trois experts, Nadine Levrato, Gaël Mac et Guillaume Poitrinal.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Et nos trois experts du jour, donc Nadine Levrato, Gaël Mac, Guillaume Poitrinal. Nadine Levrato, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Université de Paris-Nanterre. Gaël Mac, directrice déléguée de la rédaction de l'excellent magazine Challenge. Et Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, auteur de « Pour en finir ». Avec l'apocalypse, une écologie pour l'action. On était lancé dans ce débat sur la sobriété énergétique et sur la partie, justement, mobilité, transport. On était sur le ferroviaire, Nadine Levrato, et vous plaidiez pour, finalement, redonner vie à toutes ces petites lignes qui sont aujourd'hui moribondes.
Mais d'ailleurs, c'est étrange de voir que les régions, enfin, c'est pas étrange, mais les régions, là, maintenant...
Alors, c'est Gaël Mac qui parle.
Voilà, pardon, dans l'avancée vers la concurrence... les régions ont décidé, certaines régions, Grand Est, Hauts-de-France, ont décidé de mettre en concurrence des lignes qui avaient été fermées. Et ils les rouvrent, ils réinvestissent dedans eux-mêmes en tant que région et ils vont les mettre en concurrence dans le cadre de l'ouverture à la concurrence à connaître la SNCF dans les années à venir.
Je suis pas certaine que la région Grand Est soit aujourd'hui l'exemple à citer en matière de ferroviaire lorsqu'on regarde aujourd'hui les problèmes de suppression de trains. Liées justement aux difficultés d'organisation de la maintenance, la région Grand Est est l'une des pires régions, justement parce qu'elle a décidé de faire cette ouverture avancée à la concurrence et donc de dépouiller d'une certaine façon la SNCF des moyens dont elle disposait pour entretenir et maintenir le matériel ferroviaire, sachant que cette ouverture à la concurrence se fera avec un recours aux technicentres SNCF qui sont les seuls à disposer et du capital physique et de la main-d'œuvre, encore un petit peu, pour réaliser ces opérations.
En tout cas, en Allemagne, on peut voir que quand même l'arrivée en concurrence dans les régions a marché.
Oui. Il y a beaucoup de retards de train.
Non, mais peut-être des retards de train.
Le mieux, c'est nos amis italiens.
Mais le trafic italien a doublé.
Maintenant, il y a trois, parce que là, je travaille pas mal en Italie en ce moment. Vous avez maintenant trois compagnies qui sont en concurrence. Les trains, maintenant, arrivent à l'heure. Ils sont propres. Et en plus, c'est moins cher. Alors, je sais pas pourquoi, mais la concurrence, franchement, en Italie, c'est un grand succès. C'est reconnu universellement. Même la gauche italienne trouve que c'est bien. Alors.
D'ailleurs, le trafic a considérablement augmenté.
Oui, les trafics ont augmenté, bien sûr, parce que la qualité a augmenté.
Et donc, le confort
on
pourrait revivifier quand même le train.
Non, mais par rapport à notre discussion sur la sobriété énergétique, moi, et vous disiez, Nadine Levrato, c'est autre chose que de mettre un pull, d'éteindre la lumière quand on sort de la pièce, etc. On voit qu'il y a des sujets qui sont quand même assez simples, j'ai envie de dire. Ce que vous disiez, honnêtement, la température, un degré en moins, enfin pour des gens qui sont chauffés normalement, c'est pas grand-chose. Et je rappelle qu'un degré en moins, c'est quand même 7% de consommation de gaz en moins. Mais on voit bien que le gros sujet, c'est quand même la mobilité, Guillaume Poitrinal.
Oui, bien sûr. Non, le gros sujet, c'est la mobilité.
Et le logement.
Le logement, c'est la rénovation.
L'immobilier compte beaucoup. L'immobilier compte beaucoup. Il y a des choses très, très, très stupides. Vous savez, en immobilier, par exemple, vous savez que le problème sur les bureaux, c'est de refroidir les bureaux, notamment en période de canicule. Ça tire beaucoup sur l'électricité. Bon, là, vous êtes dans une tour à la Défense, vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que d'avoir la...
Et de climatiser.
Si on fait des bureaux qui sont des bureaux un peu plus bas, avec des terrasses, on peut ouvrir la fenêtre, on a une ventilation naturelle qui s'installe. Si on travaille avec des matériaux, là pour le coup c'est mon métier, désolé, mais si on travaille avec du matériau naturel, des matériaux biosourcés, du bois, vous n'avez pas l'inertie en fait du béton, et donc vous déchargez la nuit réellement en température, ce qui fait que le matin vous avez réellement frais, alors que sur les îlots de chaleur qui sont faits dans ces univers hyper bétonnés, on a un vrai problème de stock de chaleur qui s'installe. Et donc là, l'autre jour, je suis passé dans le sud de la France en train, parce que je voyage en train, vous apercevez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clims qui se mettent sur les immeubles, hein, sur les barres de HLM. Vous avez des clims sauvages qui sont rajoutés, hein, vous les voyez, et ça c'est réellement problématique. Le sujet de cette sobriété, il faut savoir, c'est le vrai sujet, c'est d'où vient-elle ? Elle vient d'où, cette sobriété ? Elle vient de l'abandon du nucléaire français. Il faut le dire. Depuis 1999, nous n'avons pas mis en route un seul réacteur. Le dernier réacteur qui a été mis en route, c'est 1999. C'était il y a 23 ans. C'était à Citeaux, dans la Vienne. À 23 kilomètres de là où j'habite. Et c'était à Citeaux. Depuis, nous n'avons pas ouvert un seul réacteur. Alors qu'on dit que nos réacteurs ont une durée de vie de 40 ans, peut-être 50. On ne sait pas. Mais ce nucléaire, il fait 75%.
Et à la même époque, on a fermé.
Il fait 75% de notre approvisionnement.
À la même époque, on a fermé.
Maintenant, il fait 50. Maintenant, il fait 60. Oui.
Et maintenant, il fait évidemment. Donc, on a abandonné cette filière. On a arrêté d'investir dans le. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant?
La moitié de nos réacteurs.
Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Il faut un plan hors sec du nucléaire français.
Non.
Il faut qu'on arrête de se dire on va mettre les Français au pain sec, on va faire des petites économies. Il faut lancer des réacteurs. Peut-être des EPR, peut-être des réacteurs traditionnels. C'est une technologie pas dangereuse, c'est une technologie compacte, c'est une technologie qui n'émet pas de CO2, et c'est une technologie sur laquelle la France a de l'avance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On l'abandonne.
Moi, je pense qu'il faut faire les deux.
Il y a quelques années, puisque vous avez dit que nous sommes des boomers, ce qui n'est pas faux.
Merci de le reconnaître. Merci, au moins une synthèse.
On parlait de maîtrise de la demande de l'énergie. Vous vous en souvenez peut-être, après le choc pétrolier, donc on n'a pas de pétrole et on a des idées. Et l'ADEME avait lancé ce grand plan de maîtrise de la demande d'abord d'électricité, ensuite d'énergie, qui a complètement disparu.
Avec des mesures de bon sens.
C'était les années 70.
La chasse au gaspillage.
Ah ouais, mais il y avait tout un tas de mesures qui étaient
très intéressantes. Et surtout, on aurait pu, alors peut-être pas tout de suite, au moment des chocs pétroliers, mais ensuite, mettre en place une véritable politique de rénovation thermique des bâtiments, aussi bien des logements que des bâtiments publics, parce que moi je travaille dans un bâtiment à Nanterre qui n'est ni climatisé, ni correctement chauffé, qui est une véritable passoire thermique, avec des ponts thermiques de tous les côtés.
Eh bien, à 700 mètres, je vous invite à visiter l'Arboretum, 126 000 mètres carrés de bureaux tout en bois, hyper isolé.
Mais oui, j'étais très déçue, je croyais que c'était un vrai Arboretum.
Avec 80% de l'énergie qui est nécessaire, qui est fabriquée à base de géothermie. Donc 11 puits de géothermie, 80% de l'énergie, c'est de la géothermie.
Mais c'est très très bien. Mais moi, je ne vous parle pas des nouveaux, pas des flux de nouveaux bâtiments, mais du stock qui n'est pas rénové ou à un rythme en tout cas déplorable. Alors on nous dit aujourd'hui, mais on ne peut pas faire de rénovation thermique parce qu'il n'y a pas les métiers nécessaires. Mais enfin, ça fait 20 ans qu'on sait qu'il va falloir les rénover.
Pourquoi
on ne passe pas aux pompes à chaleur ? Les pompes à chaleur, c'est très efficace.
Vous avez fait de la géothermie à Nanterre Université. Ça marche très bien. Il y a une énorme nappe en dessous, on l'a étudié.
Mais oui, la piscine va être chauffée.
Quand même, à vous écouter, si vous voulez, ce qui est absolument désespérant, c'est que, quel que soit le thème qu'on aborde, c'est-à-dire la rénovation énergétique, le ferroviaire, etc., le parc nucléaire, c'est qu'on se rend compte que finalement, depuis 40 ans, l'investissement a été complètement abandonné par la puissance publique.
Oui.
Sur tous les sujets.
Oui.
Que vous preniez nos infrastructures
ferroviaires. Ça s'appelle de l'incurie.
Mais
ça porte un nom.
Et oui, mais c'est là où on se rend compte. Mais alors, mais vous voyez bien que
parce qu'il faut bien comprendre, on va avoir besoin de plus compliqué. En plus d'électricité. Mais parce que si on veut passer au bas carbone, on va avoir besoin de plus en plus d'électricité. Il faut pas se raconter.
Oui, on dit que la production d'électricité doit augmenter de 50% d'ici 2050 pour.
Moi, tout ce que j'ai vu comme scénario par tous les cabinets de consultants de la Terre entière, je peux vous assurer qu'il y en a pas un qui tient la route sans un parc nucléaire beaucoup plus musclé qu'aujourd'hui.
Mais bien sûr.
Alors après, qu'on développe le renouvelable, tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nadine Livrato. Vous êtes contre le nucléaire, vous ?
Je ne suis pas pour le nucléaire, et je pense que de construire de nouvelles tranches de nucléaire et la technologie pour produire davantage ne doit pas être la première solution. C'est-à-dire qu'il faut d'abord privilégier la sobriété au sens de mégawatts.
On gagne combien la sobriété ? Ça fait gagner concrètement ?
Suivant les scénarios de mégawatts, donc on peut gagner la moitié. Le reste, c'est avec l'efficacité.
C'est plus une vie, ça, ce mégawatt.
Pourquoi ? C'est plus une vie.
C'est plus une vie, notre vie quotidienne.
Notre vie quotidienne, ce serait d'être bloqué dans les embouteillages sur le périphérique ou les autoroutes.
Non, mais je pense qu'on peut faire une partie de sobriété, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que, on devra aussi faire une partie de nucléaire, et ça se voit parce que quand on regarde la production d'énergie, on s'aperçoit que on veut plus d'énergie fossile. D'autant moins qu'on a quand même un Vladimir Poutine qui, de toute façon, veut nous en donner moins. On veut plus d'énergie renouvelable, mais pas dans mon jardin. Donc, quand on regarde les éoliennes, par exemple, le scénario de RTE pour dire qu'on allait passer à 80% ou 90% d'énergie renouvelable, ça voulait dire 4 fois à 5 fois plus d'éoliennes qu'aujourd'hui en France. 15 fois plus de surface en solaire. Vous voyez, il commence à y avoir aussi des problèmes d'artificialisation des sols, d'acceptabilité sociale aussi sur le solaire. Ça voulait dire avoir 10 000 éoliennes marines. Je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui, en 2007, avait commencé le premier projet d'éoliennes marines. On a zéro éolienne marine en service pour la production d'électricité. On en a une en démonstration au large du Pornic ou quelque chose comme ça. C'est tout. Donc, je veux dire, on voit que l'effort d'équipement en énergie renouvelable serait tellement considérable, alors que pour l'instant, avec la bureaucratie, les recours, etc., on met, je crois, 5 ans, 6 ans pour sortir un projet d'éolienne terrestre. Ça serait absolument...
Mais c'est mort, on n'y arrivera jamais.
Incroyable. En plus, il faut voir sont des énergies diffuses, intermittentes, qui demanderaient énormément de filerie, énormément de connectique, en fait, de fils à haute tension pour passer de l'un à l'autre, et un stockage pour l'instant introuvable, ou en tout cas au niveau de la recherche et développement, le stockage d'énergie renouvelable. Donc finalement, on se dit, moi je ne suis pas pro-nucléaire, je ne dis pas que ce n'est pas du tout dangereux et que c'est fantastique, ce que je dis c'est qu'on n'a pas le luxe de s'en passer.
Voilà, devant l'urgence climatique, ça serait vraiment criminel de ne pas relancer. Alors, en plus, ce qui va se passer quand même dans les années qui viennent, c'est que nécessairement, on va compter le carbone. J'appelle de mes voeux dans ce bouquin l'étiquetage carbone de tous les produits à égalité avec le prix. Donc, l'étiquetage, le gramme de carbone de votre produit sur son cycle de vie, donc fabrication, sur le cycle de vie du produit, de tous les produits. On devrait avoir ça dans toutes les gondoles d'hypermarché, on devrait avoir à la même hauteur l'étiquetage carbone. Bon, c'est ce qu'on a fait pour l'immobilier. Donc aujourd'hui, on sait calculer le grammage carbone de n'importe quel composant dans un immeuble. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire pour un pot de moutarde, pour un sèche-cheveux, et même pour des vacances.
D'avoir une étiquette avec le carbone et l'étiquette avec le prix. Ce qu'il faut, c'est que le carbone, il soit dans le prix, et puis c'est tout.
Et à un moment donné, il y a des gens qui mettent, j'ai vu une chaîne en Allemagne qui commence à mettre l'équivalent. D'accord ? En mettant un prix au carbone.
Ah ben voilà.
Et donc, quand vous dites ça, je vous le vends 1,50€, mais en fait, avec son coût carbone, ça vaut 2,70€.
Et ben ça, c'est beaucoup plus intéressant.
Donc, vous voyez, on arrivera à des taxes carbone. On arrivera à des taxes carbone, parce que la planète, elle se réchauffe de façon dramatique. Dans cet univers post-carbone, comment est-ce que la France, parce qu'on est quand même français, comment est-ce que la France peut tirer son épingle du jeu ? Avec le nucléaire. Avec le nucléaire, on va pouvoir réindustrialiser la France. Pourquoi ? Parce que nous savons maîtriser une énergie largement décarbonée.
Nous savions.
Enfin, nous, J'espère, oui, qu'on, j'espère qu'encore il y a deux, trois personnes compétentes.
Voilà, notre filière nucléaire.
Vous savez, il y a une attente publique.
C'est le mal qu'on a à construire Flamanville quand même.
D'accord, mais moi j'étais à Chinon l'autre jour. Chinon, c'est une vieille, c'est une grosse centrale. J'étais à Chinon, j'ai rencontré le maire de Chinon. Il m'a dit, nous, rajouter un réacteur à Chinon, c'est demain, tout de suite. Ils sont tout à... Il y a une acceptation sociale du nucléaire. Je suis désolé, hein, parce que Chinon, c'est à 30 km de là où j'habite. Hein. Et Civaux, à 23. J'habite au milieu du nucléaire. Vous voyez, j'ai pas des oreilles qui pendent. J'ai encore toutes mes dents, etc. Il y a une acceptation sociale du nucléaire qui est très supérieure à celle des éoliennes. Très, très supérieure. Et quand on voit qu'il faut des milliers d'éoliennes pour remplacer un seul réacteur.
C'est surtout qu'il faut que 18 centrales. On n'a que 18 centrales. Donc, je veux dire, c'est plus facile de trouver de l'acceptabilité sociale sur 20 sites ou 30 sites que d'en trouver sur...
Mais pour une raison, on est...
C'était très facile avec la taxe professionnelle en particulier.
Oui, demandez aux gens qui habitent
particulièrement bien.
Demandez aux gens qui habitent dans des villes dans lesquelles il y a une centrale
complètement
nucléaire.
Complètement suréquipée.
Sur le plan des impôts locaux, ils sont extrêmement satisfaits. Là, le rapport coût-efficacité...
Mais les mêmes, vous leur proposez un champ d'éoliennes qui aussi est rémunérateur pour la mairie et pour la collectivité, je vous le rappelle, et ils disent non. Tout simplement parce que c'est pas leur vie, c'est pas leur paysage. Et qu'ils ont le sentiment que ça sert pas à grand chose.
La gri-énergie fonctionne bien. La gri-énergie fonctionne très bien. Vous parlez de la Vienne. Les toits des fermes sont couverts de panneaux.
Ce que vous appelez la gri-énergie.
C'est-à-dire les agriculteurs qui, justement, dans leurs champs ou sur leurs bâtiments, puisque ils ont beaucoup de toitures, installent des dispositifs de production d'énergie.
Non, mais il y a un problème d'échelle, Nadine Lebrato, quand même.
Et puis ils sont 6 fois plus émetteur que le nucléaire, je suis vraiment désolé. La cellule photovoltaïque fabriquée avec du charbon chinois, qui est aujourd'hui la cellule photovoltaïque disponible, elle émet 60
alors là,
grammes
vous
par kilowatt de truc, là où le nucléaire est à 6 ou 7 grammes. Donc il y a un vrai problème.
Vous mettez l'accent sur un point qui est absolument essentiel à mes yeux, c'est justement le lien entre ces politiques de transition énergétique et les politiques industrielles. C'est-à-dire que là encore, il n'y a pas que dans le nucléaire qu'on a perdu du savoir-faire, il y a dans toute la filière photovoltaïque qui a été totalement démantelée et qui a été en partie sacrifiée sur l'autel du nucléaire, hein, puisque c'était un choix politique. Quand on regardait, ne serait-ce qu'au niveau de la recherche, les dotations qui allaient vers le CEA et les dotations qui allaient vers les labos ou les entreprises qui développaient les nouvelles technologies, les nouvelles formes de silicium pour passer du cristallin, du polycristallin à des formes plus modernes et peut-être plus efficaces.
On est aussi de la recherche dans le nucléaire qui nous serait diablement utile, hein, notamment
les projets
SMIC. Mais donc, il faut remettre ou créer des liens entre cet objectif impératif de transition écologique et de société bas carbone et pas que carbone d'ailleurs, à basse consommation de matière, et les politiques industrielles. En effet, faire venir des panneaux chinois à bas coût en subventionnant les installations de photovoltaïque, c'est une aberration écologique. Pas tant pour le coût du carbone que représente le transport par conteneur des panneaux, puisque bon, par unité, le coût moyen en carbone est diminué, mais parce qu'on sait bien que les conditions de production du silicium en Chine sont catastrophiques environnementalement et socialement.
Et dans les filières abandonnées, je suis désolé, mais je reviens à la géothermie qui a, à mon avis, un énorme potentiel. Ouais. Énorme potentiel. Je vous rappelle qu'ici, en région parisienne, on est sur un lac artificiel considérable. C'est une véritable mer à 60 mètres qui, de toute façon, est à 12 degrés en permanence et on ne l'utilise quasiment pas. Et ça, c'est quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai lu tout sur les ENR, ça m'a passionné, et je n'ai toujours pas compris pourquoi on ne mettait pas le paquet dans ce pays sur la géothermie, source renouvelable, continue. Donc il y a pas de problème de tiens, il y a plus de vent, il faut plus mettre la machine à laver ou tu enlèves le chauffage ou le truc. C'est continu, c'est renouvelable, c'est gratuit. Il faut juste faire attention, et je suis d'accord avec les écologistes, à pas réchauffer les nappes, donc où il faut aller taper dans des nappes plus profondes, mais c'est pas un problème une fois que le puits est fait. C'est un peu plus cher en investissement, mais franchement, franchement, du point de vue du bilan carbone, c'est le jour et la nuit.
L'Italie a fait, hein. L'Italie a beaucoup plus développé la géothermie que la France.
Y compris la géothermie, vous savez, très très profonde, hein, puisque ils sont allés à plusieurs centaines de mètres. Moi, là, je parle de la géothermie moins profonde, avec des pompes à chaleur au-dessus, en fait, hein, mais qui sont 10 fois plus efficaces que les RR. Hein. Y a un gros potentiel là-dessus. Personne n'en parle.
Si on résume, depuis 30 ou 40 ans, on a quand même l'impression que la France, dans sa politique énergétique, elle fait un peu n'importe quoi.
Elle fait rien, surtout.
C'est-à-dire beaucoup de tergiversations, d'atermoiements sur le nucléaire pour enfermer puis revenir.
Oui, mais vous voyez bien à quel point c'est compliqué de rattraper des retards d'investissement.
Beaucoup de bureaucratie sur les énergies renouvelables. Oui, mais alors, on n'a pas investi, mais par exemple, on a subventionné ces énergies solaires et éoliennes à des niveaux spéculatifs. Il y a quand même des gens qui se sont fait beaucoup d'argent
et qui sont allés en prison.
Ouais, la Cour des comptes a quand même, la Cour des comptes a quand même, fait un rapport sanglant pour expliquer que quand même il y avait eu des gens qui s'étaient fait beaucoup d'argent. Il y avait quand même dans le sud de la France, il y avait des gens qui faisaient fonctionner avec des projecteurs électriques la nuit les panneaux solaires pour récupérer l'électricité solaire qui était ultra subventionnée. Donc il n'y a pas eu d'investissement, mais il y a eu quand même beaucoup de dépenses publiques.
Nadine Levrato, c'est une bonne blague d'économiste. Il y a deux façons de faire changer le comportement des gens. C'est soit la dictature, soit les prix. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment vous envisagez la trajectoire des prochaines années ? Est-ce qu'il y a un pays qui peut servir d'exemple ? Est-ce qu'il y a des pays vertueux ? Je sais pas, Guillaume, vous qui voyagez dans le monde entier, je sais pas. Et concrètement, le prix du carbone, va bien falloir qu'on le paye quand même un jour ?
Mais là, on va avoir les deux, c'est-à-dire des politiques très autoritaires et des prix élevés.
Ah ouais.
Mais ce que je redoute, c'est que la hausse des prix, là, on l'a devant nous, elle frappe d'abord, malheureusement, les moins émetteurs de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les plus pauvres. Et donc, on a une efficacité de la hausse des prix qui n'est pas excellente. On voit quand même les déplacements en avion, puisque aujourd'hui il y a les flight trackers qui suivent Bernard Arnault, le PDG de Total, etc., qui font des 3-4 vols au quotidien, et on va demander aux gens qui font 50 km en voiture pour aller travailler le matin et revenir le soir de consommer moins d'essence. Il y a aussi une exemplarité qui peut modifier les comportements des gens. On a tous plus ou moins lu ou entendu parler de Veblen et de sa classe de loisirs qui guide les comportements. Ce sont des exemples, ce sont des anecdotes, ça ne construit pas un raisonnement. Mais quand on voit les influenceurs à Dubaï qui consomment...
Les plages climatisées, vous voulez dire
La vidéo
de footballeur,
c'est
à l'air
foot.
Libre.
C'est des trucs de dingue, je suis d'accord.
Guillaume,
les milliardaires français.
Ça, il faut l'interdire. Et je pense que ce n'est pas une souffrance pour le français moyen que d'interdire ce type de diffusion.
Mais vous ne pouvez pas l'interdire. Il faut que ça coûte 3 ou 4 fois plus cher à Bernard Arnault de prendre son avion. Et puis il le prendra quand même.
De toute façon, il faut bien. Il est à la tête d'une multinationale. Il a créé beaucoup d'emplois. Heureusement qu'on a nos milliardaires en France. Je suis désolé, chère madame, mais heureusement qu'on a nos milliardaires.
Mais ils nous coûtent cher quand même.
Heureusement qu'ils sont là pour faire de l'emploi, pour créer encore des ateliers à Pantin qui font encore des sacs à main cousus humains.
Ou à Vendôme.
Ils sont utiles, ces milliardaires. Et rapportés au global et à la totalité, ils émettent peu en volume total, comme vous le savez.
Ah non, alors là, il y a le rapport du CA.
Non, mais individuellement.
Totalement. Alors, Oxfam sur les milliardaires, c'est du pipeau.
Non, mais
c'est
50%. Non, je ne vous parle pas d'Oxfam. Je vous parle du rapport du CAE qui décompose par décile de revenus les émissions.
Mais ça n'a rien à voir avec les milliardaires. Il y a 3 milliardaires.
Ils sont dans
français.
Le dernier décile quand même.
Non, mais d'accord, mais c'est pas leurs 50 tonnes qui vont faire. Vous savez,
il y a une centrale à charbon,
c'est 2 millions de tonnes, c'est pas 50 tonnes.
C'est une question d'exemplarité.
Oui, je suis d'accord. Ça,
voilà.
Mais maintenant, le problème.
Et le modèle.
Le réchauffement climatique, il n'en a rien à faire quand même de l'exemplarité. Le réchauffement climatique, c'est un sujet de grande masse. Le problème aujourd'hui du réchauffement climatique, c'est le charbon, 40% des émissions. Nous, on va réouvrir Saint-Avold, c'est un scandale. J'incite tous les jeunes à aller s'enchaîner à Saint-Avold pour éviter la réouverture de la dernière centrale à charbon français.
Allez, vous enchaînez à Saint-Avold.
Qui n'avait rien à faire dans la loi sur le pouvoir d'achat.
Merci à tous les trois pour cette discussion passionnante et passionnée sur la sobriété énergétique. Merci Nadine Levrato, Gaël Mac, Guillaume Poitrinal. On se retrouve demain pour une nouvelle édition des Experts.